Chapitre 36. Je frappe à sa porte, entends sa voix, compose mon visage, entre. Il est debout près de la cheminée. À la main, il tient un verre presque vide. D'habitude, il attend que j'arrive pour commencer à boire de l'alcool. Et pourtant, je sais qu'ils prennent du vin au dîner. Il a le visage un peu congestionné. J'essaie d'évaluer combien de verres il a bu.
« Mes compliments, » dit-il. « Comment va la plus belle, ce soir ?»«
Quelques-uns. » Je le décèle au raffinement du sourire qu'il compose et me décoche. Il en est à la phase galante. « Je vais très bien. »«
D'humeur à faire un peu la fête ?»«
Pardon ?» Derrière cette mise en scène, je sens de la gêne, une incertitude sur la question de savoir jusqu'où il peut aller avec moi. Et dans quelle direction ?
Ce soir, j'ai une petite surprise pour vous,
dit-il. Il rit. C'est plutôt un ricanement grivois. Je remarque que ce soir, tout est petit. Il veut minimiser les choses, moi y compris.
Quelque chose qui va vous plaire.
Qu'est-ce que c'est ? Un jeu d'échecs chinois ? Je peux prendre ce genre de liberté. Cela semble lui faire plaisir. Surtout après quelques verres. Il me préfère évaporer.
Mieux que cela,
dit-il, essayant de m'aguicher. Je peux à peine attendre.
Bien.
Il va à son bureau, fouille dans un tiroir. Puis il vient vers moi, une main derrière le dos.
« Devinez, »
dit-il.
« Animal, végétal ou minéral ?»« Oh,
animal, » dit-il, avec une gravité feinte.
« Je dirais, incontestablement, animal. »
Il sort la main de derrière son dos. Il tient une poignée de plumes, dirait-on, mauve et rose. Maintenant, il secoue l'objet. C'est un vêtement, apparemment de femme. Il y a les bonnets pour les seins, recouverts de sequins pourpres. Les sequins sont de minuscules étoiles. Les plumes entourent les trous pour les cuisses et bordent le haut du corsage. Alors, je ne me trompais pas tellement à propos de corset, après tout. Je me demande où il l'a trouvé. Tous les vêtements de ce genre sont censés avoir été détruits. Je me souviens d'avoir vu cela à la télévision, dans des reportages tournés dans une quantité de villes. À New York, cela s'appelait « la purification de Manhattan ». Il y avait des feux de joie à Times Square, entourés de foules qui psalmodiaient, des femmes qui levaient les bras en l'air avec gratitude quand elles sentaient la caméra sur elles. De jeunes hommes au visage net et dur comme pierre qui lançaient des choses dans les flammes, des brassées de soie et de nylon et de fourrure artificielle, vert limette, rouge, violet, satin noir, lamé d'or, argent scintillant, slip bikini, soutien-gorge transparent avec des cœurs en satin cousu pour couvrir les bouts de seins. Et les fabricants, les importateurs et les revendeurs à genoux à faire pénitence en public, avec des chapeaux en papier conique, comme des bonnets d'âne sur la tête, portant en rouge l'inscription « Honte ». Mais certains articles ont dû survivre au bûcher. Il n'est pas possible qu'ils aient tout raflé. Il a dû se procurer ceci de la même manière qu'il a obtenu les revues. Pas honnêtement. Cela pue le marché noir. Et ce n'est pas neuf. Cela a déjà été porté. Le tissu sous les bras est chiffonné et légèrement taché de la sueur d'une autre femme.
« Il m'a fallu deviner la taille, » dit-il.
« J'espère que ça vous ira. »«
Vous pensez que je vais mettre ça ?»
Je sais que ma voix sonne prude, désapprobatrice. Pourtant, l'idée a quelque chose de séduisant. Je n'ai jamais rien porté qui ressemble, même de loin, à ceci. Rien de si étincelant et théâtral.
Et c'est bien ce que cela doit être. Un vieux costume de théâtre. Ou le reste d'un défunt spectacle de boîte de nuit. Ce que j'ai eu de plus approchant, c'était des costumes de bain et un bustier en dentelle couleur pêche que Luc m'avait acheté un jour. Pourtant, cet objet est paré d'une séduction. Il éveille un désir puéril de se costumer. Et ce serait une telle bravade, un tel sarcasme à l'adresse des tantes, tellement scandaleux, tellement libre. La liberté, comme tout le reste, est relative. Je dis « Bon ?» en évitant d'avoir l'air trop impatiente. Je veux qu'il sente que je lui fais une grâce. Maintenant, nous y arriverons peut-être à son véritable désir profond. Est-ce qu'il a une cravache cachée derrière la porte? Va-t-il exhiber des bottes, se courber ou me courber sur le bureau? C'est un déguisement, dit-il. Il vous faudra aussi vous maquiller le visage. J'ai ce qu'il faut. On ne vous laisserait jamais entrer autrement. Entrez où? Ce soir, je vous sors. Me sortir, c'est une expression archaïque. Sûrement, il ne reste plus aucun endroit où un homme puisse sortir une femme. Je vous sors d'ici. Je sais, sans qu'il le dise, que ce qu'il propose est risqué, pour lui mais surtout pour moi. Mais je veux y aller quand même. J'aspire à n'importe quoi pour rompre la monotonie, renverser le prétendu ordre respectable des choses. Je lui dis que je ne veux pas qu'il me regarde pendant que je revêsse ma chaîne. J'ai encore des timidités devant lui à propos de mon corps. Il dit qu'il va tourner le dos et s'exécute. J'ôte mes chaussures, mes bas et ma culotte de coton et enfile les plumes par-dessous la tente de ma robe. Puis je retire la robe elle-même et remonte les minces bretelles à sequins sur mes épaules. Il y a aussi des chaussures, mauves, à talons ridiculement hauts. Rien ne me va tout à fait, les chaussures sont un peu trop grandes, le costume est trop serré à la taille, mais ça ira. Je dis « Voilà !» et il se retourne. Je me sens idiote. Je voudrais me voir dans une glace. « Charmant !» dit-il. Et maintenant le visage. Tout ce qu'il a, c'est un rouge à lèvres, vieux et coulant, et sentant le raisin synthétique, de l'eyeliner et du mascara. Pas d'ombre à paupières, pas de rouge à joues. Pendant un instant, il me semble que je ne pourrais pas me rappeler comment on fait, et mon premier essai avec l'eyeliner me laisse une paupière maculée de noir, comme si j'avais participé à une bagarre. Je l'essuie avec la lotion pour les mains à l'huile végétale et fais une autre tentative. Je me frotte les pommettes avec un peu de rouge à lèvres, en étalant bien. Tandis que je fais tout cela, il tient devant moi un grand miroir à main, à dos d'argent. Je le reconnais, c'est celui de Serena Joy. Il a dû le lui emprunter, dans sa chambre. Je ne peux rien faire de mes cheveux. « Formidable !» dit-il. « Maintenant, il est tout excité. » Comme si nous nous habillions pour une fête. Il va au placard et en tire une cape avec un capuchon. Elle est bleu clair, la couleur des épouses. Elle doit aussi appartenir à Serena. Tirez le capuchon sur votre visage, dit-il. Essayez de ne pas abîmer votre maquillage. C'est pour passer les postes de contrôle. Mais, et mon laissez-passer ? Ne vous inquiétez pas, j'en ai un pour vous. Et nous voilà partis. Nous glissons ensemble à travers les rues qui s'assombrissent. Le commandant me tient la main droite, comme si nous étions des adolescents, au cinéma. Je serre étroitement la cape bleu ciel autour de moi, comme doit le faire une bonne épouse. À travers le tunnel que forme le capuchon, je vois la nuque de Nick. Sa casquette est posée d'aplomb. Il est assis bien droit. Son cou est droit. Tout en lui est extrêmement droit. Toute son attitude est un reproche. Où est-ce moi qu'il imagine? Sait-il ce que je porte sous cette cape? Est-ce lui qui l'a déniché? Et si oui, est-ce que ça le rend furieux, ou lubrique, ou envieux, ou autre chose, ou rien du tout? En fait, nous avons quelque chose en commun. Nous sommes censés l'un et l'autre être invisibles. Nous sommes l'un et l'autre des fonctionnaires. Je me demande s'il le sait. Quand il a ouvert la porte de la voiture pour le commandant, et par extension pour moi, j'ai essayé d'accrocher son regard, de le forcer à me regarder. Mais il a fait comme s'il ne me voyait pas. Pourquoi? C'est une bonne planque qu'il a, à faire de petites commissions, rendre de menus services, et il ne voudrait pour rien au monde risquer de la compromettre. Les postes de contrôle ne posent aucun problème. Tout se passe aussi facilement que l'avait annoncé le commandant, malgré le martèlement intense, la pression du sang dans ma tête. « Dégonflé !» dirait Moira. Après le deuxième poste de contrôle, Nick interroge. « Ici, monsieur ?» Et le commandant répond. « Oui. » La voiture se range au bord du trottoir et le commandant me dit. « Maintenant, il faut que je vous demande de vous coucher par terre, au fond de la voiture. » « Par terre ?» « Nous devons franchir la grille, » dit-il, comme si cela avait un sens pour moi. J'ai essayé de lui demander où nous allions, mais il a répondu qu'il voulait me faire la surprise. Les épouses ne sont pas admises. Donc je m'aplatis. La voiture démarre de nouveau, et pendant quelques minutes, je ne vois rien. Sous la cape, il fait une chaleur étouffante. C'est une cape d'hiver, pas celle d'été. En coton. Et elle sent l'antimite. Il a dû la tirer du placard de rangement, sachant qu'elle ne s'en apercevrait pas. Il a courtoisement déplacé ses pieds pour me faire de la place. Pourtant, j'ai le front sur ses chaussures. Je n'ai jamais jusqu'ici été aussi près de ses souliers. Ils ont un contact dur, ferme. Comme des carapaces de scarabée, noirs, vernis, impénétrables. Il semble n'avoir aucun rapport avec des pieds. Nous franchissons un autre poste de contrôle. J'entends des voix, impersonnelles, déférentes, et la vitre qui s'abaisse et se relève électriquement pour que les laissez-passer soient visés. Cette fois-ci, il ne montrera pas le mien, celui qui est supposé être le mien, puisque je n'ai plus d'existence officielle pour le moment. Puis la voiture avance. Et s'arrête de nouveau. Et le commandant m'aide à me relever. Il nous faudra faire vite, dit-il. C'est la porte de service. Laissez la cape à Nick. À 1 heure, comme d'habitude, dit-il à Nick. Donc il s'agit ici aussi de quelque chose qu'il a déjà fait. Il m'aide à me débarrasser de la cape. La portière de la voiture s'ouvre. Je sens l'air sur ma peau presque nue et je me rends compte que j'ai transpiré. Au moment où je me retourne pour fermer la portière derrière moi, je vois Nick qui me regarde à travers la vitre. Il me voit maintenant. Est-ce du mépris que je lis? Ou de l'indifférence? Est-ce simplement ce à quoi il s'attendait de ma part? Nous sommes dans une ruelle, derrière un bâtiment de briques rouges, relativement moderne. Une rangée de poubelles est disposée derrière la porte, et cela sent le poulet frit en train de pourrir. Le commandant a la clé de la porte, qui est unie, grise et noyée dans le mur, et je crois, faite d'acier. À l'intérieur, il y a un couloir en parpaing éclairé par des tubes fluorescents au plafond, une espèce de tunnel fonctionnel. « Attendez !» dit le commandant. Il me glisse autour du poignet une étiquette pourpre, sur une bande élastique, comme les étiquettes de bagages dans les aéroports. Si quelqu'un vous pose une question, dites que vous êtes loué pour la soirée, dit-il. Il saisit le haut de mon bras nu et me dirige en avant. Ce que je veux, c'est un miroir, pour voir si mon rouge à lèvres est bien mis, si les plumes ne sont pas trop ridicules, trop crasseuses. Sous cet éclairage, je dois être blafarde. Mais c'est trop tard à présent.
« Idiote !» dirait Moira.